Nature humaine de Serge Joncourt. Chapitre 17. Mercredi 1er octobre 1980. Il y avait ce qu'il faut de soleil, mais pas assez de pluie. Si la nature ne voulait pas donner davantage, elle mettrait à mal tous les semis, et si les graminées manquaient de feuilles, elles seraient cuites aux premières gelées. Les vaches étaient toujours en bas, dans la vallée. L'automne venait de commencer. Pourtant, s'il voulait bien pleuvoir, on pourrait faire une troisième coupe de luzerne. L'année prochaine, le père ferait 2 hectares de fourrage en plus, il louerait la nouvelle presse à balles rondes, comme ça se faisait maintenant. Mais vu la pente qu'il y avait par ici, faudrait rudement pousser le tracteur pour tirer la machine, ça coûterait du gasoil, c'était sans fin. En contemplant ses prés, Alexandre s'efforça d'avoir un regard d'artiste. Comme l'oncle Pierrot, le frère de son père, qui s'était retrouvé sans terre et sans ferme, tout ça parce que Lucienne et lui jugeaient qu'il buvait trop et n'avait pas les idées claires. Pierre, qui, du temps où il travaillait ici, parlait des cultures à semer, comme l'aurait fait un peintre. L'année prochaine, on plantera du colza au long du bois. On fera du jaune tout le long du vert, avec des coquelicots au milieu. Avec lui, le coteau était peint du violet éphémère du safran, et le tabac en fleurs était un champ de grappes blanches à liseré mauve. Pierrot gardait les fleurs de tabac cueillies dans des vases, il en faisait un bouquet géant dans la vasque de dehors, ça sentait bon, comme un miel d'ambre. Pierrot était un vrai poète, un bon paysan, mais un paysan qui ne mettait jamais le réveil et était souvent en retard sur le soleil. Alexandre décida que la saison prochaine, on sèmerait de la luzerne en plus du trèfle, si bien qu'il y aurait plein de fleurs. C'est important, les fleurs. De loin, ça caresse l'œil et puis ça ravit les abeilles. Dernièrement, dans les campagnes, plein de gens s'étaient installés des ruches. On aurait dit que c'était devenu une mode. Seulement, à force d'ajouter de nouvelles colonies d'abeilles, un acarien venu d'Asie s'était glissé dans leurs rangs et les attaquait. Passé par la Sibérie dans les années 60, depuis quelque temps il envahissait l'Europe, d'aucuns avaient la trouille que ce parasite les tue toutes, comme si la terre pouvait un jour manquer d'abeilles à cause d'un acarien asiatique. Alors puisque les abeilles pullulaient, Alexandre ferait des fleurs, en les boostant avec de l'engrais, on arriverait à faire 3 coupes. Le père avait peut-être raison de vouloir engraisser d'autres vaches, d'autant qu'avec 20 bêtes en plus par an, Alexandre commençait à se dire que plutôt que de retaper une bicoque, il pourrait carrément se louer un pavillon, un vrai pavillon, pas une vieillerie comme celle du père Creissac. Avec 20 vaches de plus, il pourrait avoir un vrai 3 pièces de plein pied, avec le frigo en inox, la Chenify Technix de 80 watts en métal gris, haute comme un gratte-ciel, amplifié par 2 enceintes cabasses. À force de gamberger, Alexandre n'arrêtait pas de suer et de s'essuyer le front. Depuis la fête, il fatiguait au moindre effort à croire que le shit que le Basque avait glissé dans sa poche l'autre soir était trop fort pour lui. Mais surtout, cette histoire d'engrais le travaillait. Jamais il n'aurait dû se fourrer là-dedans. À la limite, il n'aurait même jamais dû leur parler à ces types. La sueur lui coulait jusque dans les yeux. Au lieu d'enfoncer le crampillon dans le piquet de bois, il tapait chaque fois à côté, explosant le métal et se frôlant les doigts. En une demi-heure, il s'était déjà tapé 3 fois sur les doigts, ça virait au carnage. Pourtant, ces clôtures, il fallait absolument les remettre en état. Le pire, c'était quand il se baissait pour les clous d'en bas. Chaque fois qu'il se relevait, la tête lui tournait au point de devoir prendre appui. Il eut un vertige, plus fort encore, en repensant à quoi il s'était engagé, parce que dimanche en 8, il les reverrait à l'appartement. En tout cas, Anton avait dit qu'il serait là, soi-disant qu'il squattait la grande chambre pour quelques mois. Avec le recul, il ne se sentait plus de leur refiler ses 10 kilos d'engrais, parce que ça n'en finirait jamais. De dimanche en dimanche, il lui en demanderait toujours plus. Il venait de mettre le doigt dans un foutu engrenage. À moins de ne plus aller à Toulouse, de ne jamais renouer le contact, de ne plus voir Constance. Alexandre posa le marteau. Il flanqua le rouleau de fil barbelé et tout le matériel dans le godet du tracteur, mais au lieu de démarrer, il laissa l'engin là et remonta à pied à travers champs. Il traversa le petit bois pour aller voir Creissac. Le Rouge, c'était bien la seule personne au monde avec qui il pourrait parler de ça. Lui, au moins, il avait une expérience des luttes et des activistes. Il avait fréquenté des militants de toutes sortes, en plus de tous les révoltés qui rejoignaient sur le Larzac. Il trouva le vieux dans sa chèvrerie en train de faire ses malheureux petits fromages. Creissac n'aimait pas trop avoir de la visite, sinon que ça lui offrait le prétexte de boire un coup et d'étancher cette soif qui ne le quittait pas, une soif qui lui venait du sel qu'il tripotait chaque jour pour stabiliser ses fromages, le sel dont il enduisait ses boules de lait. Cet homme passait sa vie dans le lait de chèvre et le sel. « Oula, malheureux! Va pas fouséguer là-dedans! Crois-moi que les antinucléaires, c'est un vrai nid de guêpe! » Entre les anards, les Mao et les agents allemands, sans parler des excités de l'ETA, et tous ces fils de bourgeois qui jouent à la guérilla en rêvant de casser du flic, fais gaffe à toi, hein. Et puis je vais te dire, le nucléaire, c'est le cadet de leurs soucis. Bah, c'est pas sûr, après tout, ils sont comme vous, sur le cause, ils défendent la nature. Tu parles. Le nucléaire, c'est plus compliqué que ça. Alexandre ne s'attendait pas à cette réaction, au contraire, il avait espéré du père Creissac une forme d'approbation, de fraternité complice. Mais en fait, la simple évocation des antinucléaires semblait le contrarier. Tout en parlant, il continuait de retourner ses fromages au-dessus d'un grand seau, il faisait voler du sel un peu partout. En même temps, il lui livrait le fond de sa pensée, Et alors qu'il était contre le téléphone, les camps militaires et les hypermarchés, visiblement, il n'avait rien contre les centrales. Ça alors, mais vous êtes pour le nucléaire ? Non, je suis contre ceux qui sont contre. Mais pourtant, la bataille à Cresmailleville, c'était un peu comme le Larzac, il y avait des paysans qui se battaient contre la centrale. Tu parles. Ben, on les a vus à la télé. Ceux-là, s'ils y sont allés, c'était pour mater les Allemandes qui se douchaient au jet d'eau devant leur minibus. Ils y sont allés pour se rincer l'œil, et leur bataille, ça a été Waterloo, un mort, des centaines de blessés, ça partait dans tous les sens. De toute façon, entre les pacifistes et les excités de l'extrême-gauche, ça peut pas coller. Total, on se tape un attentat par semaine depuis 3 ans. Alexandre le prit pour lui. Pour la première fois, il se sentit concerné par ce mot, attentat. Ces bombes qu'on voyait péter à la télé, tous ces pylônes à haute tension, ces locaux d'EDF, ces barrages, ces engins de chantier qu'on faisait sauter à l'explosif, toutes ces nuits bleues en Corse, de même qu'en Irlande et au Pays Basque, en Allemagne, en Italie. Tellement de violence, de bombes et d'enlèvements depuis tant d'années qu'on n'y portait même plus attention. Ils sortirent de la chèvrerie pour aller boire un verre à la fermette. Au loin, Alexandre reconnut le bruit du car scolaire. Il s'arrêtait à la croisée des chemins tout là-haut. Sans les voir, rien qu'en entendant le vieil autocar redémarrer, il sut qu'Agathe et Vanessa venaient d'en descendre. Il imagina la scène, le car qui s'éloigne derrière elle, qui se dirige vers la route de Pastura, et elle qui ont encore tout le chemin à remonter à pied, près de 2 kilomètres. 2 kilomètres hors du commun, un chemin que dans la famille tous avaient fait à pied, 2 kilomètres qui allaient de la route bitumée à la ferme que le conseil municipal n'avait jamais voulu goudronner à cause de vieilles histoires de droits d'eau sur le barrage. Du temps où il y avait d'autres fermiers dans le canton, ceux-ci étaient jaloux que les fabriers puissent pomper de l'eau dans la rivière et leurs vaches s'y tremper. Et en représailles, on avait laissé les Bertranges avec leur vieux chemin de terre. Maintenant, à part Crissac, il n'y avait pas d'autres paysans dans le coin et toujours pas de goudron sur le chemin. « Y a un souci ?» Non, c'est les gamines qui rentrent. Je voulais leur faire signe, mais vos voix sont trop hautes. » Le père Crissac haussa les épaules. Les enfants, lui, ça l'intéressait pas. « T'amuses pas à leur parler de ça. Hein. »« À qui ?»« À tes sœurs. Tu leur parles pas de tous ces gars que tu vois à Toulouse. »« Je vais dire même à moi, tu devrais pas en parler. Quand on se met à voir ce genre de fréquentation, on le garde pour soi. »« Mais moi, j'ai rien à voir avec eux, c'est juste que je les rencontrais, c'est tout. » En pénétrant dans la vieille bicoque, Alexandre se fit immédiatement rattraper par l'odeur, un mélange de paille et de tabac froid, une odeur de terre exaltée par la fraîcheur du sol. Dans le fond, cette odeur, il l'aimait bien, c'était le parfum d'un antre intemporel, une odeur qui existait depuis des siècles, et dont on se débarrassait aujourd'hui en mettant du carrelage partout. On carrelait même les chèvreries, et les ateliers devenaient des laboratoires à fromage. J'ai pas de conseils à te donner, mais je vais t'en donner un quand même. Le père Crissac sortit sa bouteille de vin de sous l'évier et servit de verre. « Top, pas trop, merci. » Tu sais ce qui compte quand on rejoint une lutte? C'est d'abord de savoir avec qui on lutte. Bien souvent, les gars se lancent dans la lutte parce qu'ils sont creux, ils raisonnent vides, rarement par pure générosité. Alexandre fit couler l'eau du robinet pour qu'elle soit bien fraîche, il noya totalement son vin sans que le vieux s'en rende compte. « Même moi, le Larzac, au début, j'y suis allé pour ma sœur et mon beau-frère. » Dans le fond, je m'en foutais du Larzac, mais maintenant, si j'y retourne, c'est pour me battre contre tous ces cons qui veulent que je foute mon lait dans des bidons en aluminium et que je le filtre dans du nylon aseptisé. Je me bats contre tous ces technocrates qui me disent que mon fromage est plein de bactéries, alors que c'est la vie, les bactéries. Bientôt, on me demandera de faire mes cabécous avec une charlotte sur la tête et un masque quoi, de chirurgien. Tu vois, si j'y monte sur le Larzac, c'est pour me battre contre ce monde-là, pas contre leur terrain militaire. Même moi, je suis pas honnête. Je suis sincère, hein, mais je suis pas honnête. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Militer, c'est égoïste. Alors l'intérêt général là-dedans, laisse-moi rigoler. Il faisait sombre dans cette baraque. Alexandre avait beau regarder le décor sommaire, il ne voyait plus ce fusil habituellement en évidence suspendu au mur par la lanière. Depuis son séjour en prison, le vieux camarade était devenu prudent. Finalement, il y a 4 ans, les gars des PTT avaient fini de planter leur poteau pendant que Crissac ruminait en garde à vue, puis il avait payé l'amende. « Dis-moi, gamin, comment ça se fait que tout d'un coup tu te préoccupes du nucléaire ?» Ben je m'y intéresse, c'est tout, c'est notre avenir qui est en jeu. Et puis c'est plutôt vous qui êtes bizarre. Avant vous sortiez le fusil contre des gars qui installaient le téléphone, et aujourd'hui le nucléaire ça vous pose pas de problème? Une centrale c'est quand même autre chose que des poteaux de pin traités à l'arsenic, non? Crissac ne lui dit rien de ses propres contradictions. L'idée de cette centrale nucléaire le révoltait, certes, comme toute idée de progrès. Seulement, il y avait eu tous ces attentats revendiqués par de faux communistes, de prétendus communistes antinucléaires, des dizaines d'explosions un peu partout en France, et cette forme de violence-là, il ne la supportait pas. Il y avait surtout que les vrais communistes, les apparatchiks de la place du colonel Fabien, avaient arrêté leur point de vue sur le nucléaire. La nouvelle ligne du parti, c'était que les centrales nucléaires seraient une vraie mine d'or pour le monde ouvrier. Construire 60 réacteurs d'ici l'an 2000, c'était l'assurance de créer 200 000 emplois. Le premier miracle de l'énergie nucléaire, c'était bien des centaines de milliers de nouveaux travailleurs qui existeraient grâce à elle. De quoi faire oublier les ravages de la sidérurgie qui s'effondrait partout en France. Il y avait aussi qu'EDF avait promis de reverser 1% de son chiffre d'affaires au syndicat via son comité d'entreprise. Alors il n'était pas question de tout gâcher. Et si ce social traître de Mitterrand continuait de prendre ses distances avec le nucléaire, des hippies qui ne votent pas quand ils ont le temps, ce Mitterrand faudrait le faire trébucher, faudrait le saborder plutôt que de l'aider à se faire élire. Ils restèrent un long moment comme ça, sans se dire un mot, tous demeurés dans leurs contradictions, puis le père Cressac remplit de nouveau les verres, et sans relever les yeux vers Alexandre, il lança sans gloire. « Tu sais, gamin, dans la vie, quand on regarde trop loin, il y a trop de choses qui nous dépassent. Et faire de la politique, c'est apprendre à ne plus penser par soi-même. Tu piges ?» Alexandre ne répondit rien. Les chèvres appelaient depuis la chèvrerie, elles voulaient sortir à l'air libre. Dans l'encadrement de la porte, le dehors faisait comme un tableau, le soleil de 17h vernissait les feuilles de ce début d'automne. Les derniers vers étaient encore vifs. Ils palpitaient sur un fond de ciel bleu. C'était apaisant. Nature humaine, de Serge Joncourt. C'était le chapitre 17.
Cet arbre-là, c'est le mien, mon vieux l'a planté un matin de mars pour célébrer, comme il se doit, mon arrivée. Il faisait froid, il y avait du vent, un timide soleil de printemps, tout juste échappé de l'hiver, caressait la ferme de mon père. Cet arbre-là, c'est le mien, je l'ai salué chaque matin. Que tu faisais avant d'aller creuser la terre, faucher les blés. Il faisait froid, il y avait du vent, qu'importe pendant 40 ans. Ce fut moi la pauvre pomme qui s'en allait nourrir les hommes. Cet arbre-là, c'est le mien, le seul, l'unique témoin de cette course en solitaire, à marche forcée pour que la terre, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, crache ses poumons, verse son sang. Fallait produire jusqu'à l'envie, un peu mouton, moi j'y suis vie. Cet arbre-là, c'est le mien, je m'y balance ce matin, au gré du vent pour célébrer, comme il se doit, ma destinée. Qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, je m'en contrefiche à présent. Adieu mes champs, adieu ma terre, fin de la course en solitaire.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un recyclage contemporain de l'héritage paysan ?
Valérie Joussaume est l'autrice du livre Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes, paru aux éditions de l'Aube. Vous pouvez retrouver ses podcasts vidéo sur imaginela.fr.
Et pourquoi, finalement, on passe d'un idéal de l'émancipation de l'individu par la ville à un idéal de convivialité de type villageois ? Je crois que ce n'est pas bucolique, en fait. Je pense que c'est un rapport entre la question de la liberté et l'individu, d'un bord, et la communauté et la sécurité, de l'autre. Les sociétés paysannes, elles assuraient la sécurité des individus en leur offrant la nourriture, le toit, une attention par rapport aux aléas de la vie, etc. En fait, pour être libre en tant qu'individu, il faut être sécure. Et l'ère de la modernité, au XXe siècle, ça a vraiment été un moment où les sécurités familiales, villageoises, sont passées à l'état de la nation, au niveau de la nation, surtout dans le contexte de l'économie keynésienne, on va dire, de l'état-providence. Donc on va avoir l'éducation gratuite, on va avoir le contrat de travail à durée indéterminée, on va avoir les congés payés, le congé maternité, on va avoir bien sûr la retraite, la sécurité sociale. Donc tout ça, ça va permettre une émancipation de l'individu, qui va donc sortir de sa communauté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, les individus, l'individualisme est poussé à son extrême. On pourrait dire, on mange quasiment tout seul, on a son écran, on est tout seul, on danse tout seul, on vit, beaucoup de gens vivent seuls, et parfois même on meurt seul. Donc d'un côté, on a un individualisme hyper développé, et en même temps, les garanties de sécurité s'étiolent. Alors il y a une insécurité par exemple écologique, c'est-à-dire on peut se poser la question de savoir si on va avoir de l'eau pure, de l'air, de la nourriture saine à l'avenir. Il y a des insécurités aussi plus psychologiques, c'est-à-dire que en fait pour se sentir un individu reconnu, encore faut-il avoir une communauté qui nous reconnaisse. Et quand on est tout seul perdu dans la mondialisation, on peut perdre ce besoin d'unicité qui est un besoin fondamental de l'être humain. Et puis surtout, eh bien les sécurités collectives sont en train d'être un peu démantelées. C'est-à-dire, on voit bien tous les acquis sociaux sur les contrats de travail, avec la précarité. On est dans une société de la pénurie de l'emploi, la pénurie de l'argent. Et donc, si les acquis sociaux et les sécurités sont démantelés, vous imaginez, s'il n'y a plus de sécurité sociale, s'il n'y a plus d'éducation gratuite, s'il n'y a plus de retraite, eh bien nécessairement, l'individu va aller rechercher des sécurités dans des communautés. Mais les communautés à venir sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir dans le passé. Les communautés paysannes, c'est un peu comme un rocher. Ensuite, dans l'ère de la modernité, on s'est individualisé, c'est comme si on avait été débité en pavé. Les communautés du futur, ce sont des communautés d'individus, c'est-à-dire c'est comment, à partir des individus, on va faire ensemble une maison commune.
Aujourd'hui, vous avez entendu un extrait du roman de Serge Joncourt, Nature humaine, paru aux éditions Flammarion, la chanson Mon arbre, du groupe Les Fatal Picards, et un extrait des podcasts vidéo de Valérie Joussaume, à retrouver sur imaginela.fr. Merci à Rix pour l'habillage musical, à CFM, l'été de Vaour, l'Ata du Tarn, la 4C et la Talbera. Retrouvez toutes les infos du projet L'Avenir est à la campagne sur le site de la compagnie Les Funambules, lesfunambules.fr, une adresse mail pour nous contacter, avenircampagne@lesfunambules.fr, avenircampagne@lesfunambules.fr. À très bientôt et n'oubliez pas, l'avenir est à la campagne.